France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe, quelques pages de Liszt et des sonates de Bieber.
Et tout de suite à Chloé. C'est l'une de nos voix préférées, Sabine Deviel, ici tout en élégance, raffinement, délicatesse. Elle se fait rencontrer deux géants aux affinités électives, Richard Strauss et Wolfgang Amadeus Mozart. Alors il y a d'évidents points communs à l'écoute de ces mélodies, une façon de magnifier la langue allemande chez l'un comme chez l'autre, une prosodie jamais inutilement compliquée, des lignes vocales toujours au service justement de cette mélodie, et tout ceci avec l'intelligence de Sabine Deviel qui traduit ceci à admirer. C'est un de nos disques coup de cœur. Vous étiez surprise de ce coup de cœur, Émilie ?
Non, absolument pas, Rodolphe.
Absolument pas.
Je ne suis pas étonnée.
Et donc, après avoir entendu Mozart, voici Richard Strauss. nous sommes en lévitation lorsque nous écoutons ce disque tour à tour Zerbinetta ou Reine de la Nuit que notre soprano connaît bien, magnifiquement porté aussi par son pianiste Mathieu Pordois, que Sabine Devielle connaît depuis les années de conservatoire. Et je tiens à dire que ce n'est vraiment pas un piano qui accompagne.
Ah
vous
oui,
l'avez
il a l'air
entendu
très vivant.
Ici, c'est un piano incarné. Bref, il y a tout pour faire ici un disque réussi, deux compositeurs de génie, des œuvres que l'on ne connaît pas toutes. Là, je vous ai passé évidemment deux grands tubes de ces compositeurs, mais on y fait aussi plein de découvertes, des interprètes inspirés, une belle prise de son. Alors évidemment, c'est notre disque du jour sur France Musique à réécouter, à podcaster. Et on retourne à Mozart. Le disque du jour sur France Musique, Mozart Strauss. Ici, c'était Mozart et c'est la sublime voix de Sabine Devielle avec le non moins sublime piano de Mathieu Pordois.
Orchestre, maintenant à 9h12, on va faire quelques pas de danse.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Thank you.
À travers Roméo et Juliette de Prokofiev, c'est l'occasion de découvrir une jeune chef qu'elle vend en poupe et que vous avez peut-être déjà entendu en concert si vous êtes parisien, puisqu'elle a dirigé l'Orchestre de Paris à l'automne dernier. Elle est née à Hong Kong en 1986, elle a étudié dans le Michigan, elle a été chef assistante de l'Orchestre Symphonique de Londres et elle s'appelle Elim Chan. Elle l'a dirigée partout aujourd'hui aux États-Unis, à Berlin, à Vienne et depuis 2019, donc elle est chef principale de l'Orchestre d'Anvers. Elle est passée par la direction d'orchestre, passionnée par la direction d'orchestre depuis son plus jeune âge, ainsi que par la boxe. Elle dit que c'est important de faire de la boxe pour se défouler entre quelques concerts.
Vous pensez qu'il y a un lien entre la direction d'orchestre et la boxe?
L'énergie peut-être quand même,
peut-être.
Je pense.
Et viser juste il faut des... avec le bras.
Oui, ça, c'est fort possible aussi. J'espère qu'elle ne met pas des coups de baguette à ses musiciens quand même. Énergie, en tout cas, il y en a dans la direction de cette chef. On le voit quand on la regarde diriger sur certaines vidéos. Des gestes ultra précis qui enthousiasment visiblement les musiciens. Et elle aime particulièrement donc, la musique de ballet. C'est un programme autour de la danse qu'elle a choisi. Prokofiev et puis Daphnis et Chloé de Ravel qu'on va entendre. Ainsi qu'une pièce de l'américaine née en 89, Elisabeth Ogonek, qu'on écoutera dimanche soir dans notre empiste contemporain. Plus d'un siècle de musique de ballet dirigée avec souplesse et mouvement. Voici donc Daphnis et Chloé, la fin de la deuxième suite.
Thank you.
Daphnis et Chloé de Ravel avec l'orchestre d'Anvers dirigé par Elim Chan, cette chef qui est donc directrice musicale de cet ensemble depuis 2019 et qui est très appréciée des grandes formations internationales. Et on écoutera un autre extrait de ce disque dimanche soir à 21h dans notre Empiste contemporain puisque je vous diffuserai la musique d'Elisabeth Ogonek qui est une compositrice américaine née en 1989.
Bientôt 9h30.
Thank you.
le concerto en ré mineur de Bach, Candida Thompson, et l'Amsterdam Sinfonietta, un album qui met en regard deux compositeurs. D'un côté, normalement, l'énergie rationnelle de Bach avec un sens du tempo, de la fougue, et de l'autre, l'épure, la contemplation d'Arvo Pärt. Mais j'ai l'impression, à l'écoute de ce disque, que Arvo Pärt a déteint presque sur la façon de jouer Bach, parce que vous avez entendu peut-être un Bach ici qui est plutôt dans la retenue, qui est joué assez lentement et presque de manière romantique aussi.
Mais on n'a plus l'habitude aujourd'hui, absolument. On a beaucoup de tempi assez enlevés.
Et les musiciens nous le disent un petit peu, en fait, finalement, les musiques de Bach et de Pärt sont profondes et intemporelles. Ils cherchent dans la complexité pour trouver des réponses et arrivent à quelque chose de pur et de séduisant. Vous ressentez chez l'un comme chez l'autre la continuation du passé, du présent et du futur. Donc peut-être que l'idée aussi de ce disque, c'est de nous montrer que ces deux compositeurs peuvent être contemporains par certains aspects. Alors il y a une œuvre de Pärt qui répond parfaitement à l'œuvre de Bach, ça s'appelle Collage d'après Bach. En voici un extrait. Collage d'après Bach, c'est la musique d'Arvo Pärt et c'est ici l'Amsterdam Sinfonietta qui nous propose donc ce disque en regard à la musique de Jean-Sébastien Bach avec celle d'Arvo Pärt.
Chez les baroques, il y avait Bach, il y avait aussi Bieber qu'on va tout de suite retrouver.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Thank you.
La sixième sonate de Bieber par Gunnar Letzbor et l'ensemble Ars Antica Austria. Et moi, j'aime beaucoup ces sonates de Bieber, figurez-vous, de plus en plus.
Mais oui,
plus
c'est ce que vous me disiez.
Mais je les trouve sacrément modernes, à vrai
mais
dire.
Oui, avec parce que vous les comparez même à la musique de Max Richter.
Ah, mais au donc début, ça pourrait être de la musique répétitive. Ça joue sur les chromatismes. Enfin, il y a plein de choses à découvrir dans cette œuvre qui est vraiment tournée vers le futur. Et c'est le violoniste Gunnar Letzbor qui joue ce répertoire et qu'il connaît bien puisqu'il a déjà enregistré ses sonates à ses débuts, à une époque où Bieber n'était pas encore joué comme il l'est aujourd'hui. Et des années plus tard, son regard sur cette musique a changé, a évolué au niveau de l'interprétation et aussi au niveau de l'accompagnement de son violon. Et donc, il a décidé de nous en donner un tout autre regard. La cinquième sonate pour violon de Bieber, Gunnar Letzbor, qui nous dit que cette nouvelle interprétation sera probablement la dernière déclaration sur cet opus violonistique que je ferai de mon vivant. Il a 60 ans, il a encore le temps de nous donner beaucoup de belles versions de ses œuvres.
Il est dans une petite phase de dépression.
Je ne sais pas, ça m'a fait de la peine, parce qu'en plus, c'est très beau, il y a encore beaucoup à faire. Je suis sûre qu'il a beaucoup à nous dire. 2 disques, 8 sonates pour violon, totalement avant-gardistes, nous dit le musicien. Des sonates pleines d'idées folles, avec des dissonances régulièrement brisées, avec des formes qui sont très libres, des articulations, des coups d'archet qui vont au-delà des conventions de l'époque, des doubles jeux utilisés à l'excès, des positions hautes sur le violon. Bref, il nous dit que les affects vont jusqu'aux limites extrêmes de notre champ psychologique. C'est aussi cela, la musique de Bieber enregistrée par Gunnar Letzbor qui se régale en jouant cet opus. Et en tant qu'auditeur, c'est pareil pour nous. On va entendre donc un dernier extrait de ce disque. Il est avec son ensemble Ars Antica Austria. Vous avez entendu peut-être les cloches.
Mais oui.
À la fin.
Je crois qu'elles annoncent ce que je vais passer ensuite.
Ah, absolument. Alors, donc là, c'était la musique de Bieber par Gunnar Lesbord avec Ars Antiquosa. Les cloches annoncent.
La bénédiction de Dieu dans la
et
solitude,
oui,
c'est bien
absolument,
fait.
Absolument,
hein, ce
c'est tout de même bien fait. On a fait exprès, bien évidemment.
La musique de Liszt qu'on va écouter tout de suite par Aline Piboul. Un très beau projet où on trouve donc cette grande bénédiction de Dieu dans la solitude, la musique de Franz Liszt.
Thank you.
l'inondation, se laisser submerger par ce qui se répand, ce qui est plus vaste que soi, être englouti, se sentir infime, l'eau ruisselante dans les ruelles de mon âme peuplée de peur et d'angoisse. C'est ainsi que Aline Piboul présente ce disque et on vient de l'entendre ici magnifiquement. Vous me disiez, vous aussi, Émilie, vous avez trouvé ce liste emporté, plein de fougue et de passion.
Et pas seulement. Aussi plein d'émotions.
Exactement. Bénédiction pardon, de Dieu dans la solitude. Et c'est l'émotion peut-être qui guide ce très beau projet, puisqu'elle tisse avec la musique de Liszt, celle de Bach et celle d'Olivier Greff. Et Olivier Greff, grand compositeur, disparu prématurément dans les années, enfin en 2000, pas dans les années 2000, en 2000 à l'âge de 50 ans. Et un compositeur qui a su garder l'attachement auprès des interprètes et des auditeurs. On reçoit régulièrement des disques, un compositeur enregistré, mais il y a encore beaucoup à découvrir dans cette musique intrigante. Par exemple, ici, je vois Sonate pour piano numéro 21. Donc ça veut dire qu'il a évidemment beaucoup composé. Et il était également très très bon pianiste. Et vous allez voir, cette sonate, elle est insaisissable, elle est très touchante. Vous parliez d'émotion et on la ressent dès les premières notes, l'émotion, dans cette sonate d'Olivier Greff.
Thank you.
Étonnante musique, hein, celle d'Olivier Greff.
Ah, je vous remercie, parce que je ne connaissais pas cette sonate.
Et à la fois, alors, il y a quelque chose qui est complètement troué de silence,
oui.
Très énigmatique. Il y a quelque chose qui rappelle aussi un peu une musique de variété, la chanson, complètement.
Je ne sais pas, ça pourrait être Jacques Brel,
oui,
par
oui.
Pour accompagner Jacques Brel.
Avec ce thème en boucle, et puis cette façon pianistique de faire monter, entre guillemets, la tension, mm-hmm. d'aller jusqu'à une sorte de point culminant où tout explose. C'est la musique d'Olivier Greff, sonate pour piano numéro 21, et ça se trouve dans le disque d'Aline Piboul.
Bien, j'espère que les auditeurs vont vous remercier comme
mais
moi.
Ils pourront en tout cas me remercier encore dimanche prochain, puisque je vais passer alors une autre sonate d'Olivier Greff un peu plus ardue qu'on trouvera dans notre En Piste Contemporain le dimanche soir.
Il est 10h06.
France Musique, En Piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Thank you.
Revoilà nos deux amis compositeurs réunis sur un même disque, Robert Schumann et Johannes Brahms.
Ils ont éjecté Schumann, la femme.
Entendu. Oui, alors là, ils ont enlevé Clara. On ne peut pas avoir toujours les mêmes programmes, hein, mais non, là, il y a les deux hommes. Deux musiciens que nous apprécions beaucoup dans cette émission, le violoncelliste suisse Christian Poltera et le pianiste spécialiste des instruments historiques, dont Rodolphe est un fanatique, Ronald Brautigam.
Absolument génial musicien.
Et là, il joue la copie d'un piano de 1868 avec un son très chaleureux de cet instrument qui se marie, je trouve, à merveille avec le timbre du violoncelle. C'est en tout cas ce qui m'a tout de suite touché dans ce disque, l'entente du violoncelle et du piano qui est absolument totale. C'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble, ces deux musiciens, Mendelssohn également. Et puis, c'est une manière de raconter la musique qu'on ne trouve pas toujours, notamment, je trouve, ici, chez Schumann. Très bel opus où le dialogue peut se faire romantique et impétueux aussi, comme dans la deuxième sonate pour violoncelle de Brahms.
Thank you.
la deuxième sonate pour violoncelle de Brahms, Christian Poltéra et Ronald Brautigam, pour ce très bel opus qui mêle la musique de Brahms et de Schumann. En attendant, pendant ces minutes de musique, nous avons reçu beaucoup de mails.
Mais
et
oui,
on vous remercie pour
ces informations.
Pour ces informations, puisque la sonate d'Olivier Greff, où moi j'ai pensé à Jacques Brel en l'écoutant, eh bien non.
Non.
Ça aurait été inspiré par Domino, chanté par André Claveau. Et on doit dire qu'on ne connaissait pas cette chanson.
Mais c'est bien,
50.
On l'a écouté du coup, et bon, c'est bien celle-là.
On l'a écouté pendant le Brahms, et c'est bien cette chanson. Et comme quoi, on apprend beaucoup de nos auditeurs également.
Et on est heureux de leur avoir fait découvrir la musique d'Olivier Greff, parce que vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous découvriez cette sonate et ce compositeur.
Et que vous alliez effectivement aller vous plonger dans la musique de ce compositeur. C'est Barbara Hannigan qui l'a enregistré aussi. Non, pas du tout.
Non, je crois pas.
Bon, ok, alors j'ai complètement confondu. Ouais. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave. On va maintenant parler du disque à gagner.
France Musique.
On vous fait gagner un disque de Christophe Rousset autour d'Antonio Salieri et ses Horaces, opéra enregistré il y a quelques années. Et la question est la suivante.
Selon la légende, Salieri était le rival de... Il était le rival de Chopin, de Mozart ou de Mahler? Selon la légende, Salieri était le rival de Chopin, Mozart ou Mahler? Votre réponse, francemusique.fr, à l'émission En Piste.
Voilà d'aujourd'hui ce qui reste de toi. honteux souvenir et sois digne de ta naissance. Ne nous fais plus rougir, et préfère du moins à l'amour d'un seul homme la gloire de ton sang et la terre de Rome.
La musique de Salieri avec le Cyril Dubois dans la distribution, Judith Van Van Rooy pour ne citer que les talons lyriques, et Christophe Rousset. Salieri était le rival de,
selon la légende, Mozart. Merci, bravo pour vos nombreuses réponses.
Et merci à Emmanuel Morse d'Incan, Léa Gramusset et Karine David.
À réécouter sur francemusique.fr.